Le Digital Services Act impose de nouvelles obligations aux plateformes. Quel type de contentieux peuvent émerger? Le DSA marque-t-il un tournant dans la régulation du numérique en Europe? On en parle tout de suite avec mon invité, Ella Barda, associée chez Signature Litigation. Ella Barda, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors, le Digital Services Act impose de nouvelles obligations aux plateformes numériques. On va voir ensemble dans le détail ce DSA. Mais tout d'abord, est-ce que le DSA se distingue des précédentes régulations du numérique et pourquoi était-il nécessaire ?
Alors, le DSA, en fait, vient moderniser la directive e-commerce de 2000, qui était devenue quelque peu obsolète face à l'essor des plateformes numériques et des réseaux sociaux au cours des 20 dernières années. L'objectif de ce texte, c'est donc d'adapter le cadre juridique aux problématiques actuelles en responsabilisant davantage les plateformes sur la gestion des contenus illicites. En fait, il s'agit d'assurer que ce qui est interdit hors ligne le devienne également en ligne, tout en préservant la liberté d'expression et l'innovation. C'est vraiment cette recherche d'équilibre qui a conduit le législateur européen à introduire des obligations graduées selon la taille et l'influence des acteurs, avec quand même un accent particulier sur les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche qui sont les acteurs qui comptabilisent plus de 45 millions d'utilisateurs chaque mois au sein de l'Union européenne. Et donc la nouveauté du texte, c'est qu'il crée de nouvelles obligations donc à la charge de ces plateformes en leur imposant par exemple, alors s'agissant des très grandes plateformes en particulier, de procéder à une analyse des risques systémiques liés à l'utilisation de leurs services.
Ça veut dire quoi ?
Ce sont tous les risques en fait, qui découlent par exemple la diffusion à grande échelle des fake news ou des discours haineux ou alors des risques d'ingérence ou de manipulation dans le cadre des processus électoraux par exemple. Donc ces plateformes doivent procéder à cette analyse de risque et aussi surtout prendre des mesures pour les atténuer. On peut aussi citer un grand nombre d'obligations visant à plus de transparence imposées pour ces plateformes, typiquement plus de transparence pour les publicités par exemple qu'elles diffusent.
Alors, on a vu le cadre juridique du DSA. On va s'intéresser au premier litige post-DSA. Quel type de contentieux ont émergé à la suite de ce règlement ?
Alors, on observe d'ores et déjà plusieurs types de contentieux, aussi bien en France qu'au niveau européen. Alors, en France, les toutes premières décisions portent sur des demandes de retrait de contenus publiés sur des sites web d'avis qui sont jugés diffamatoires, dénigrants ou trompeurs, par exemple. Et alors, contrairement aux attentes de certains, il n'y a pas de condamnation à la chaîne pour le moment. Les juges rappellent, de façon d'ailleurs assez pragmatique, qu'il appartient aux parties d'identifier précisément les propos litigieux, de les qualifier juridiquement, c'est-à-dire d'expliquer en quoi est-ce que ces propos sont illicites, et enfin de démontrer l'existence du préjudice allégué pour pouvoir obtenir la suppression de ces contenus. À l'échelle européenne, pour le moment, les recours introduits sont ceux qui sont portés par les plateformes elles-mêmes, souvent pour contester leur désignation comme très grande plateforme, puisqu'on a vu que ça découlait un grand nombre d'obligations assez contraignantes. Alors, jusqu'à maintenant, ces recours n'ont pas vraiment abouti. On peut citer tout récemment la décision du 3 septembre 2025 du tribunal de l'Union européenne qui a rejeté le recours de Zalando qui contestait donc sa désignation, ce qui emporte donc pour elle des obligations renforcées. D'autres recours aussi qu'on peut citer, ceux de Meta et de TikTok, pour contester la décision de la Commission européenne fixant une redevance de surveillance. Alors, pour les très grandes plateformes, de quoi il s'agit ? C'est une somme annuelle qui est fixée, qui est due par les plateformes pour financer les activités de surveillance de la Commission européenne, qui est en fait l'autorité de supervision pour cette grande plateforme.
D'accord.
Alors, c'est un petit peu technique, mais Meta et TikTok ont obtenu gain de cause, donc on fait annuler la décision, mais ça portait sur la méthodologie de calcul de la redevance, mais le principe même donc de la redevance n'a pas été remis en cause. Donc, on voit qu'au niveau européen, pour le moment, le contentieux se concentre sur les grands acteurs du numérique, ce qui est d'ailleurs logique, puisque ce sont elles qui sont en première ligne.
Bien sûr. Et on voit que la qualification aussi de grandes plateformes, de très grandes plateformes, est centrale pour l'application après des obligations renforcées. On va venir maintenant sur le côté de la responsabilité des plateformes. On sait qu'elles doivent modérer les contenus illicites. Comment concrètement se fait cette modération? Jusqu'où ça doit aller? Et est-ce que le DSA change leur responsabilité?
Alors, le DSA n'impose pas d'obligation de résultat, mais plutôt de moyens renforcés. Ça veut dire que les plateformes doivent mettre en place des mécanismes efficaces de signalement et de traitement des contenus illicites. En revanche, elles ne sont pas tenues à une obligation générale de surveillance, en fait, plus généralement. C'est un principe qui existait déjà sous l'empire de la directive, mais qui est réaffirmé avec force par le DSA. Pas d'obligation générale de surveillance. Ces plateformes bénéficient par ailleurs d'un principe d'exonération de responsabilité dans deux cas, si elles peuvent établir qu'elles n'avaient pas connaissance des contenus illicites ou alors qu'elles ont agi rapidement pour retirer l'accès à ces contenus ou pour les supprimer dès lors qu'elles en ont eu connaissance. Sur la suppression justement des contenus, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi à l'occasion de plusieurs affaires et a confirmé que la simple allégation d'illicéité ne suffit pas. C'est ce que j'indiquais en début de cette intervention.
Pourquoi ?
Il faut des éléments concrets. Je peux ici citer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2025, donc assez récent, qui a rejeté la demande de retrait d'une vidéo publiée sur TikTok qui aurait été constitutive, selon la société demanderesse, d'une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis. La société ici produisait notamment une copie d'une plainte pénale qu'elle avait déposée auprès du procureur de la République. Le tribunal a donné raison à TikTok, à juste titre, en jugeant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas, qu'il fallait ici démontrer en quoi précisément les propos tenus dans la vidéo étaient illicites. On peut citer une autre décision intéressante du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024, rendue à l'encontre de Meta cette fois-ci, qui portait sur les mesures, sur la mise en place de filtres.
D'accord.
Donc, on le disait, le DSA oblige les très grandes plateformes à prendre des mesures proactives pour lutter contre les risques systémiques. Ici, Meta avait demandé la rétractation d'une ordonnance qu'il avait enjoint à imposer des filtres, pour filtrer les publicités illicites, qui utilisait en fait le nom d'une enseigne assez célèbre, le groupe Casino Barrière, pour promouvoir une activité en ligne, une activité de jeu en ligne contrefait. Le tribunal a jugé que la qualité d'intermédiaire de Meta, sa qualité d'hébergeur, n'était pas un obstacle à ce qu'il soit enjoint à mettre en place ces filtres et que par ailleurs, cette mesure de filtrage n'était pas non plus, ne constituait pas non plus une obligation générale de surveillance dès lors qu'elle était limitée dans sa portée, dans sa durée et qu'elle était proportionnée à l'objectif poursuivi.
Bon, on voit qu'il y a déjà quelques décisions qui émergent. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ou qui vont se dégager à moyen terme, selon vous ?
Oui, je pense qu'on peut s'attendre à une montée en puissance des recours, notamment ceux engagés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est là une nouveauté du DSA, c'est qu'il a introduit, ouvert la voie aux utilisateurs, la voie donc d'un recours direct pour tous les utilisateurs qui estimeraient qu'une violation du DSA leur a causé un préjudice. La Commission européenne joue également un rôle moteur. Et là, je vous renvoie aux nombreuses enquêtes d'ores et déjà ouvertes par dizaines contre une multitude de plateformes, notamment alors Temu, TikTok, Pornhub, etc., au sujet notamment de la protection des mineurs, la transparence des algorithmes, etc. Je dirais aussi qu'il faudra être attentif à l'évolution de la jurisprudence française comme européenne, puisque celle-ci va venir préciser les contours de ces obligations mises à la charge des plateformes, mais également va nous donner des clés sur l'interprétation et l'articulation de ces obligations vis-à-vis des autres principes posés par le DSA, mais également plus généralement par rapport aux libertés fondamentales. Je pense par exemple à l'étendue donc, de l'exigence de filtrage, de contrôle mise à la charge des grandes plateformes. Comment est-ce qu'on l'articule par rapport au principe d'exonération de responsabilité des plateformes pour la publication de contenus diffamatoires ou haineux, par exemple, par leurs utilisateurs. Donc, en résumé, oui, je pense que le DSA ouvre une nouvelle ère de contentieux et que les plateformes devront s'adapter à une surveillance accrue.
Mais on va suivre de tout ça de près. Merci, Ella Barda. Je rappelle Merci. Que vous êtes associée chez Signature Litigation.
Merci beaucoup.
Tout de suite, l'émission continue. On va parler de licenciement nul pour cause de preuves illicites.